Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va Sidonie?
Très bien, et vous Thomas?
Bah oui, je suis en pleine forme, j'ai mis mon up-up, mon beau costume.
Moi j'ai mis un pyjama parce qu'il paraît que c'est très chic, très 2016, mettre un pyjama,
vous faites,
pyjama chic.
Réveillon pyjama.
Exactement.
D'accord.
En tout cas, merci à vous les curieuses et les curieux qui avez choisi de passer cette soirée sur RTL avec nous.
On est très heureux de vous avoir, on est ensemble jusqu'à 22h. Juste après, ce sera Georges Lang, il prendra le relais avec son RTL sur son 31.
Ça, c'est un beau programme. Et le nôtre, Thomas?
Alors, trois très belles aventures. On va traverser l'Atlantique, destination la Nouvelle-Orléans pour découvrir sa musique. Son carnaval, ça promet d'être chaud.
Et nous allons voyager aussi d'île en île à travers le monde avec un collectionneur d'îles mystérieuses. Et oui, ça existe.
Et c'est passionnant. Tout de suite, rencontre avec un homme extraordinaire. Le mot est faible. Explorateur, aventurier, c'est le Sud-Africain Mike Horn.
La curiosité est un vilain défaut.
On doit avoir la capacité de s'adapter dans la vie. Et moi, je me sens chez moi, de ma tante à moins 50, au milieu de la Sibérie.
RTL.
C'est moi qui a choisi. Je crois qu'on doit arrêter de pleurer aujourd'hui en disant que c'est difficile. La vie n'est pas vraiment aussi difficile qu'on croit.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Gravir quatre montagnes de plus de 8000 mètres d'altitude, l'une après l'autre, c'est le défi fou, mais réalisable pour lui, que s'est lancé l'explorateur sud-africain Mike Horn, qu'on a le bonheur d'accueillir dans notre studio. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup.
Ouais. Bienvenue.
Vous allez bien?
C'est toujours bien d'arriver chez vous.
C'est vrai? Il fait chaud, on est bien?
Oui, ouais, on est nickel.
On boit de l'eau?
Oui, tout petit peu, il n'y a pas... il n'y a rien d'autre à boire.
Mais non, il n'y a rien.
Désolé, oui.
Mike Horn, c'est... comment on a l'idée d'aller, de se lancer ce défi, de se dire, tiens, je vais gravir quatre montagnes, pas une, mais quatre. Elles feront 8000 mètres d'altitude, puis je les ferai les unes après les autres.
Et sans oxygène?
Oui, on préfère les grimper sans oxygène et sans cordes et sans sherpa, parce qu'on se sent plus libre, en fait.
Vous étiez tout seul?
Non, 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 j'ai été avec deux autres Himalayistes, et puis... Ouais. La montagne, c'était pas vraiment un milieu que je connaissais. J'étais plutôt pour l'exploration polaire. J'étais au pôle nord, au pôle sud. Et puis après un peu, quand j'ai descendu de l'Amazone à la nage, et puis je faisais latitude zéro, en fait, c'était plutôt dans les régions un peu tropicales. Donc... Et là, tout d'un coup, un copain m'appelle en disant, Mike, écoute, tu vas venir avec nous? Puis je dis, vous allez où? Ils disent, mais on va essayer de faire des 4-8000 au Pakistan, qui est Gachambrung 1, Gachambrung 2, Broad Peak et K2, dans une seule expédition. Et puis moi, je disais, mais d'accord, c'est bon, je viens avec vous. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Parce que quand tu n'as pas l'habitude d'altitude, quand tu n'as jamais monté au-delà de 7000 mètres dans cette zone de mort, tu ne sais pas si tu peux supporter ça. Parce que tu es né avec ça. Ce n'est pas quelque chose que tu peux entraîner ou juste avoir.
Mais Mike Horn, ça veut dire que vous dites, on verra bien comment ça se passera. Ça veut dire que vous partez quasi sans préparation, c'est ça?
Sans préparation, pas vraiment, parce que je suis plus ou moins... Je garde ma forme plus ou moins, parce que je suis un athlète professionnel.
Bien
mais
sûr.
Pas techniquement. Des piolets, quand j'ai pris des piolets dans mes mains, c'est presque la première fois que j'ai eu deux piolets. Et puis je dis, comment ça marche, hein? Tu dois le taper, comment tu dois le mettre dans la glace, comment ça s'accroche. Et puis tu mets des crampons.
Oui.
Et puis tout d'un coup, tu te retrouves dans un milieu qui est complètement inconnu. Et où toutes mes expéditions étaient toujours en pas à plat, en allant en pôle nord. Là, tu te déplaces verticalement.
Et c'est plus
ça,
dur,
c'est
non?
Super intéressant.
Mais c'est plus dur.
Non,
pourquoi c'est super intéressant?
Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire une erreur. Un pas après l'autre, quand tu n'es pas accroché à la montagne, quand tu n'as pas de corde, il faut être sûr que ça tient. Et ça, c'est intéressant.
Vous n'aviez pas de corde?
Non, non.
C'est-à-dire, même entre Himalayas, vous n'étiez pas raccordés les uns aux autres. Vous étiez seul avec vos piolets.
Ouais,
et la montagne de glace.
La manière que les gens grimpent aujourd'hui... plus commercialement, c'est avec l'oxygène, avec les cordes fixes et avec des charpins et des porteurs qui aident en fait les gens qui payent jusqu'à 100 000 balles ou 150 000 euros pour aller au sommet d'Everest. Et puis, quand tu veux faire ça comme un athlète ou un aventurier professionnel, tu dois le faire différemment. avec moins d'aide possible.
Ouais. Mais c'est plus risqué aussi, j'imagine, Mike Horn.
Je pense que c'est risqué quand tu n'es pas un aventurier, oui. Mais en étant un aventurier par profession pendant presque 25 ans, on voit aussi des choses d'une manière qui est peut-être différente que quelqu'un qui travaille dans un bureau.
Parce que vous avez confiance en vous, en fait. C'est ça, Mike Horn.
Parce que, en fait, quand je tombe toute seule. Je ne veux pas tirer mes potes en bas.
Ouais.
C'est ça qui est important de savoir, c'est que quand on fait des erreurs, on paye cash.
Ouais. Mike Horn, dans votre livre « Vouloir toucher les étoiles » qui est publié chez IXO Éditions, vous expliquez qu'après une certaine altitude, on rentre dans la zone de mort. Vous avez dit ce mot très rapidement tout à l'heure. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que ça signifie, la zone de mort.
Cette zone de mort, c'est au-delà d'environ 7500 mètres jusqu'à 8000 mètres. Mmh. Oh, ça va beaucoup plus haut, ça va jusqu'à 9000 mètres. Mmh. C'est là où il n'y a pas d'oxygène. C'est là où tu n'as que 7% de l'oxygène que l'homme a
au sol.
Au niveau de la mer.
7%.
7%. Ouais. Ça veut dire qu'indirectement, tu ne peux pas rester vivant. C'est une zone de mort. Il n'y a personne pour habiter là-bas. Tu peux rester dans cette zone plus ou moins 24 heures. Et puis après, c'est sûr que tu vas mourir. C'est pour ça les erreurs en haut, à 8000 mètres, c'est des erreurs qui ne se pardonnent pas. Je ne peux même pas aider mon copain qui grimpe avec moi.
Mais ça veut dire que vous l'avez traversé, cette zone de mort, Michael?
Cette zone de mort, tu rentres dans cette zone de mort en haute altitude, à 7000 mètres.
Donc il vous reste 1000 mètres?
Après 1000 mètres où tu fais plus ou moins 100 mètres à l'heure, si tu vas relativement vite.
Ouais.
Et puis, quand tu arrives au sommet, tu n'es que la moitié là.
Il faut redescendre.
Il faut redescendre. Et c'est là bien où sûr. Il y a des accidents.
C'est un compte à rebours, finalement, avant la mort, c'est ça, Mike Horn?
En fait, quand tu rentres dans cette zone, tu sais que tu dois tout contrôler. Tu dois contrôler, en fait, l'énergie que tu as toujours. Et puis, si tu ne sais pas si tu vas arriver ou pas, il faut tout de suite faire un demi-tour. Quand tu arrives au sommet, tu ne restes pas au sommet en regardant la vue, en disant « Ah, c'est joli ». Tu prends ta photo et tu descends. Parce que si tu t'assois, tu fermes tes yeux, tu dors. Et là, c'est fini.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vouloir toucher les étoiles, c'est le titre du livre de notre invité Mike Horn. C'est publié chez IXO Éditions. En 2007, Mike Horn, vous vous êtes lancé ce défi, gravir 4 sommets de l'Himalaya de plus de 8000 mètres, sans bouteille d'oxygène, sans porteur, sans corde. Le premier défi, c'est le Gasherbrum. Il ressemble à quoi? C'est une montagne qui est très difficile, qui est technique?
C'est une montagne qui commence pas mal technique avec un couloir qui s'appelle le couloir des Japonais. C'est un couloir qui monte très très raide et très très long pour arriver à 7000 mètres. Et moi qui n'ai jamais fait la montagne, j'arrive avec Jean Troyer et Fred Roux au pied du couloir des Japonais.
Donc deux Himalayistes.
Oui, deux Himalayistes.
C'est-à-dire deux spécialistes, c'est ça?
Oui, les meilleurs du monde, des guides de montagne, des gens qui ont fait 18 000, des gens qui sont extrêmement connus pour la première ascension de Everest au face nord en d'accord. 24 heures, okay. Sans oxygène.
Donc vous étiez
les meilleurs du monde. Vous étiez bien accompagnés.
Ouais. Et puis moi, je pensais qu'ils vont me donner un coup de main. Ils me filent des piolets, ils me donnent des crampons, et puis ils disent « suis ».
Suis-nous.
Suis-nous. Et puis,
vous êtes derrière vous.
Je suis au pied du couloir, mais il fait nuit noire.
Ah bon?
On part à minuit.
Avec une lampe frontale, j'imagine.
Avec une lampe frontale, mais pour arriver au sommet, sans arrêt, plus ou moins à 10 heures du matin.
D'accord.
Maintenant, je repars dans ces couloirs et tu te trouves face à un mur avec deux piolets et deux crampons et puis tu n'es pas attaché à la montagne.
D'accord.
Puis je dis, ah ouais, écoute, je vois mes copains techniquement qui avancent beaucoup plus vite et puis la distance grandit.
Ils prenaient de l'avance.
Ouais, ils prenaient l'avance.
En fait, comment on plante les piolets et les pieds, il y a des crampons accrochés aux chaussures qui permettent de s'accrocher aussi avec les pieds.
Exactement, ça veut dire que tu as les crampons avec les pointes qui rentrent dans la glace Et les piolets aussi, que tu dois juste légèrement taper, tuc, ça rentre dans la glace. Et puis, normalement, ça doit tenir.
Mais vous vérifiez à chaque fois que ça tient, vous tirez un petit peu comme ça?
Non, mais en fait, c'est ce qui était bien de la nuit, c'est que tu vois pas tout autour de toi.
Oui, c'est
et
bien.
Puis pour moi, c'était plus cette feeling que, voilà, toi, tu tapes les piolets dans la glace et puis tu tires un peu dessus et puis tu dis, oui,
ça tient.
Et puis chaque fois pour moi, je me rappelle très bien que c'est nuit noire, j'ai que la petite lampe frontale et chaque fois que je tape le piolet dans la glace, je vois ça clairement. Je vois juste le piolet qui rentre dans la glace. Mmh. Et puis après, ça éteint, c'est noir. Et je fais confiance. Après, quand je bouge mon deuxième bras, ça allume mon nouveau. Et chaque fois que je déplace soit mes crampons ou des piolets, c'est que ça qui allume. Et tu viens vraiment concentrer sur tout ce que tu fais, parce que ta vie dépend de ça.
Mais Mike Horn, vos deux compères, qui eux sont des habitués des sommets de l'Himalaya, vous nous avez dit qu'ils en avaient déjà escaladé 10, des 8000 mètres, ils prennent de l'avance, c'est ça?
Ouais.
Ils vont beaucoup plus vite que vous?
Oui, parce que je pense qu'ils sont techniquement beaucoup plus forts que moi. Et moi qui... Ouais. Ils sont venus, mais toi, tu as déjà été au pôle Nord de nuit, tu as descendu de l'Amazon à la nage. Mmh. Maintenant, de remonter un 8000, ouais, tu peux le faire. Et puis je dis, oui, d'accord, c'est bon, on va essayer.
Attendez, Mike, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, hein, parce que je rappelle que là, on est juste au début du couloir des Japonais de ce mont himalayen, le Gacharbrum 1. Vous avancez petit à petit, comme ça, il est minuit, mais vous avancez pendant combien d'heures et jusqu'où dans le noir?
L'ascension, c'est non-stop, on ne fait pas comme... La manière traditionnelle pour grimper 8000 mètres, la manière un peu traditionnelle de grimper 8000 mètres, c'est d'y aller, de quitter comme base, de dormir au camp 1. Après, se réveiller, d'y aller jusqu'à camp 2. Après, d'y aller au camp 3.
Donc là, c'est pas ce que vous avez fait là.
Et ça prend 5 jours pour grimper 8000 mètres. Mais nous, on le grimpe un mois que 24 heures.
Donc vous avez grimpé, Mike Horn?
Sans manger, sans boire.
Sans vous arrêter?
Sans arrêter. Chacun pour soi. Allez, va en haut. Quand tu arrives en haut, tu prends photo, tu t'assois pas, tu fermes pas tes yeux, tu t'endors pas parce qu'après tu descends plus.
Mais vous êtes dans quel état quand vous avez grimpé pendant 24 heures, Mike Horn?
Tu es complètement foutu. Mais c'est là où l'instant de survie prend charge de tout ce qu'on fait. Avant partie, on s'entraîne un peu aussi. On dort peut-être 5 minutes, on se réveille, on va s'entraîner un peu. Après, je retourne à la maison, je dors peut-être pour une heure, je me réveille. Et ça, c'est l'entraînement qui est hyper important. Tu ne peux pas penser que tu arrives à 7000 mètres sans oxygène et tu vas dormir dans la tente pendant 5 heures et tu vas sortir mieux. Tu ne sors pas mieux.
Tu ne sors pas.
Tu ne sors pas.
Mike Horn, quand vous arrivez au sommet de ce premier 8000, donc ça vous a demandé quoi? Une dizaine d'heures pour y arriver, c'est ça, à peu près? Il faut redescendre. Or, la fatigue de l'ascension, elle doit déjà peser sur votre organisme.
C'est ça qui est important, parce qu'on pense qu'on va arriver au sommet et puis c'est fini.
C'est gagné.
C'est gagné, mais ce n'est pas du tout gagné. Ouais. C'est là où tous les problèmes commencent. C'est pendant la descente. C'est là où tu es extrêmement fatigué parce que ta soif, tout gèle. Tu ne peux pas apporter de l'eau avec toi parce que ça gèle dans les gourdes. Il fait moins 40 ou moins 60 quand il y a du vent. Et puis, c'est important aussi de savoir que tu ne peux pas manger. Moi, je mange des pommes de terre à 7000 mètres et à 7005, je dégueule. Mais la pomme de terre a le même goût quand il rentre et quand il sort. Et puis en rentrant, quand tu as faim, tu peux même manger tout ce que tu as dégueulé. Ça va bien.
Parce que c'est resté gelé, c'est ça?
Ça restait gelé, ouais. Ça veut dire que rien
passe. On va pas vous prendre comme cuisinier, hein, Mike Horn.
rien passe vraiment. Tu peux.
Oui, je comprends.
Au-delà des 7500 mètres. Ouais. Tu peux même pas manger.
Alors, nous, on est avec vous, hein, Mike Horn. On vit ces instants avec vous incroyables. On redescend. Mais pardon, on redescend comment? Si c'est raide comme ça, on descend à l'envers
Face à la montagne.
Ah, on redescend de la même manière, avec les piolets comme ça?
De la même manière, ouais. C'est... Ou des fois, avec les Himalayistes qui grimpent depuis
longtemps.
Ils ne
descendent pas sur les fesses.
Ils descendent sur leurs fesses.
Non, c'est vrai?
Ah ouais. Ils prennent une vitesse incroyable, mais naturellement, tu dois avoir un aplati où tu peux arrêter.
Vous écoutez RTL.
Si on pleure tout le temps, pourquoi pas rester à la maison? Comme ça, on est heureux.
RTL.
Quand on part, on sait que ça peut arriver. Et puis, on doit trouver du plaisir en tout ce qu'on fait. Et puis là, c'est sûr que tu marches pendant 2 ans et demi ou tu traverses la jungle pour 6 mois. Tu ne sais pas si tu vas arriver de l'autre côté, mais tous les jours, tu profites.
Jusqu'à 22h.
Tu as choisi. Tu dois accepter.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On a choisi, on a accepté de passer la soirée avec Mike Horn, l'aventurier, l'explorateur de l'extrême, parti à la conquête dernièrement des plus hauts sommets de l'Himalaya. Mike Horn, on se posait la question tout à l'heure, vous avez un petit surnom ?
Pas vraiment, non, je suis juste Mike Horn, tout court. Ben, déjà, Mike Horn, Cap Horn,
c'est déjà pas mal.
Ouais.
C'est déjà très. Ouais.
Mike Horn, vous nous racontiez ce fameux passage, cette zone de mort qui se situe à peu près à 7500 mètres d'altitude quand vous gravissez ces montagnes. C'est un moment où le cerveau et le corps se déconnectent presque. C'est un moment où vous avez l'impression de sortir de votre corps, c'est ça, Mike Horn ?
Ça détache complètement. Ton esprit sort et puis il vole dans les vallées, par-dessus des montagnes. Et toi, tu avances comme un robot. Tu es là, tu as une mémoire, tu sais que le sommeil est là, tu dois aller là, mais tu n'es plus qui tu es.
Parce que c'est une sorte de folie dans laquelle vous entrez ?
Le problème, c'est qu'avec ces manques d'oxygène, les cerveaux ne fonctionnent plus comme ils fonctionnent. Quand j'ai arrivé au sommet, je me répétais 20 000 fois. Il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas s'endormir. Tu prends ton photo et tu descends.
Sinon, c'est la mort ?
Après, tu restes trop longtemps, tu ne repars jamais.
Ouais.
Tu es bien là.
C'est une tentation ? Il y a une tentation de rester.
C'est un piège en fait.
Oui, c'est un piège. Quand j'étais au sommet, j'ai arrivé au sommet, je disais, mais super, je veux traverser le sommet qui fait comme la largeur de 2 tables d'une famille de 4, par exemple. Si tu mets 2 tables un côté de l'autre, je voulais voir la face de l'autre côté. Où on a une autre cambase en bas.
Ouais.
Et puis, je dis à mon corps, marche. Mais il reste sur place, il n'obéit pas. Et tout d'un coup, c'est comme un peu en retard, il commence à marcher. Et quand j'ai vu que, en fait, la falaise approche, j'ai dit stop. Mais il continue de marcher. Et j'ai presque basculé dans la vide.
Dans le vide.
Et puis là, j'ai dit, mais écoute, mais ça ne va pas. Je regarde en bas, je vois de loin... Loin des petites tentes qu'on a dans notre cambase. Et là, je réalise, mais où je suis toujours sur Terre, mais je ne peux pas rester vivant. Et j'ai sorti cette zone vivant un mois que 20 heures. À 20 heures à pied.
Vous avez fait 20 heures d'efforts ?
Depuis le cambase jusqu'au sommet, 20 heures d'efforts et je suis toujours sur la planète. Mais je ne peux plus rester vivant. Ça veut dire que la couche qui nous garde vivants tous les jours est immense. En 20 heures, je le sors à pied. Je n'ai pas pris un avion. C'est cette couche qu'on...
La mort est à 20 heures du sol, c'est ça ?
Ouais. Il est là.
Pourquoi vous faites ça, Mike Horn ?
Moi, je pense que tu es né un aventurier. Et puis, c'est comme quelqu'un qui fait la musique ou l'art ou... Ou un médecin. Ou
on présente des émissions de radio.
un journaliste, par exemple.
Ouais. Parce que vous êtes heureux,
ça me rend heureux. Quand je suis dans la tente, à moins 50, les gens pensent que c'est complètement inconfortable, tu ne peux pas vivre comme ça. Oui, mais dès que tu sors ton zone de confort, tu crées ta zone, une autre zone de confort. Et puis tu grandis à travers des exploits. C'est ça qui, pour moi, je parte pour apprendre.
Apprendre sur vous et sur...
Surtout.
Surtout, oui.
Surtout.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, Mike Horn ?
Moi, j'ai appris qu'en fait, tu parlais beaucoup plus loin que tu crois. Et quand tu te prépares bien, et tout ça, tu parlais encore plus loin. Et la vie, de rester vivant, c'est important. J'ai appris ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne fait pas ça pour mourir, on fait ça pour rester vivant et pour sentir vivant.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité, quel plaisir de recevoir l'explorateur, l'aventurier Mike Horn qui nous raconte comment il a gravi ces sommets de l'Himalaya, ces 8000 mètres et plus. Mike Horn, il se trouve que j'ai eu la chance d'escalader le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est 4800 et quelques. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal et que j'avais très très mal au crâne et que ça m'a semblé impossible d'aller plus haut. Comment on peut aller deux fois plus haut, aller à 8000 mètres, comment c'est possible?
Là, c'est vraiment important de s'acclimater, comme on dit, la climatisation, de monter au camp base, déjà jusqu'à 5000 mètres, ça prend 8 jours. Et au fur et à mesure que tu montes en altitude, ton corps, il crée des globules rouges.
Ouais.
Les globules rouges absorbent l'oxygène. Après, qui donne l'oxygène au corps, aux muscles.
C'est une réserve, finalement, qu'on fait au fur et à mesure.
Exactement. Ça veut dire que pour transporter l'oxygène, pour que tu puisses bouger les bras, les jambes, les muscles ont besoin de l'oxygène.
Ouais.
Et là, les globules apportent l'oxygène aux muscles.
Et ça dure combien de temps, cette acclimatation?
Cette acclimatisation, ça dure environ 30 jours. Et puis, pendant 30 jours, on est au pied du K2, par exemple. Le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, à 8600 mètres. C'est la montagne des montagnes. Tu as peur de regarder, de lever la tête, parce que c'est une montagne qui domine.
Ouais.
Et puis, pendant un mois, tu fais des allers-retours. Tu montes à 5000 mètres à 6000 mètres et tu descends. Après, tu prends un petit repos et après, tu montes à 6500 mètres.
Ouais.
Tu dors une nuit à 6500 mètres.
On dort bien?
Et tu dors jamais bien. Il fait froid, la tente est petite, tu dors avec deux gars qui puent, qui rotent et qui ronflent, et puis qui pètent toute la nuit.
C'est pas sympa pour Thomas. Ah non, c'est pas Thomas, pardon.
Mais parce que ça, c'est pas ton plus grand problème, c'est pas un problème.
Bien sûr.
Comme je disais.
Oui, mais il y a la récupération quand même.
De toute façon,
c'est pas comme ça que ça se fait.
Quand tu dors en altitude, tu récupères pas. Parce qu'on dort sans oxygène. Et les heures sont comptées en altitude. Ta mère tente pas de dormir, mais de continuer de marcher. Parce que même à l'intérieur de la tente, tu deviens faible.
Mais alors, Mike Horn, je comprends bien. 30 jours d'acclimatation. Et alors, du coup, quand vous redescendez à un niveau normal...
Là, tu es chargé, tu es à bloc. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Dopé, c'est ça? Presque dopé?
Tu es dopé. Tu as des globules rouges, tu vas aller faire du vélo et tu laisses tous tes copains 20 km derrière toi. C'est incroyable.
Bon.
C'est comme des athlètes qui participent un peu aux Jeux olympiques. Et puis, ça arrivait souvent, en fait, que des athlètes s'entraînent en altitude pour créer plus de globules rouges pour que les muscles aient plus d'oxygène.
Mike Horn, dans votre livre « Vouloir toucher les étoiles » chez XO Éditions, vous racontez une histoire absolument incroyable, celle de votre ami avec qui vous grimpez, l'un de ces monts himalayens, et que vous devez laisser en haut, tout en haut.
Oui, ça c'était une histoire fou, parce que Jean, pour moi, qui est monsieur Himalaya en Suisse, c'est vraiment... peut-être un des plus grands himalayistes que la Terre a connu, avec quelques Français, et puis peut-être Messner, Loretan, Troyer, Benoît Chameau, Béguin, c'est des gens extrêmement forts en altitude, qui a fait des choses qui n'ont jamais été répétées. Et là, je grimpe avec Jean. Et Jean me dit, Mike, tu arrives au sommet, tu prends ton photo et tu rentres. Lui, il arrive au sommet, il ne prend pas son photo, il s'assoit et il s'endort.
Tout ce qu'il ne faut pas faire.
Tout ce qu'il a dit que je ne dois pas faire.
Ouais.
Moi, je prends mon photo, je vais vers Jean, j'essaie de le réveiller un peu, et puis il ouvre un œil comme ça, et puis le premier truc qu'il me dit, c'est « Mike, regarde en bas, tu vois des supermarchés, tu vois des Chinois... » qui est en train de pousser les caddies pour faire du shopping.
Donc il délirait, en fait.
Il délirait déjà.
Ouais.
Tu vois une place de parc énorme. Et puis je regarde, mais je ne vois pas. Et c'est là où je commence aussi, moi, de me douter de est-ce que c'est moi qui ne vois pas ou est-ce que c'est lui qui voit. Et c'est cette confusion un peu totale. Jean, on y va, s'il te plaît. On descend. Lui, il dit, laisse-moi là. C'est un de mes plus grands copains. Je le laissais là. Je fais un demi-tour, je descends sur l'arête. Devant moi, 10 mètres plus tard, je vois Jean assis sur l'arête. Je dis, mais comment il a fait? Je l'ai laissé en haut. Maintenant, il est devant moi. Ça veut dire que moi, je suis en train de perdre mes pédales.
Vous aussi, oui.
Et puis là, je dis, il faut descendre plus vite. Autrement, je vais rester ici. Personne ne peut t'aider là. Je vais vers le type qui est devant moi. Je le secoue comme ça. Je tourne la tête. C'est un type qui est assis sur l'arête, congelé à l'arête. Il est mort. Ça fait 3 ans qu'il est là. Ça fait 3 ans qu'il était perdu.
Ça arrive souvent de croiser des morts comme
ça? Et puis, ça arrive malheureusement souvent parce que la montagne a un seul sommet. Et tout le monde va toujours, plus ou moins sur les mêmes routes, vers les mêmes sommets. Là, je réalise tout d'un coup, c'est pas Jean. Jean est toujours derrière moi. Et je commence à descendre plus vite parce que ça m'a presque choqué. Je descends dans un couloir tout près des Japonais et puis il y a des Tchèques qui montent. Tout d'un coup,
un alpiniste tchèque, c'est
ouais,
ça
ouais,
qui monte.
Des alpinistes tchèques qui montent. Et puis, je sens un peu la neige, la glace qui tombe dans ces couloirs et qui tombe sur moi. Et tout d'un coup, je vois la lumière de Jean. Et Jean qui crie « Mike !» Et puis là, Jean s'est réveillé. Il a descendu et puis il m'attrapait. Il passe à côté de moi, Jean. On est à côté dans le couloir. Les Tchèques montent. La corde casse des Tchèques. Il tombe sur Jean. Il amène Jean en bas. Les Tchèques est mort et Jean vivant. Ta vie tient à rien. La montagne est devenue aussi dangereuse à cause des gens qui la grimpent.
Mike Horn, votre récit est fascinant, passionnant. Il est à lire dans ce livre.
Parce qu'on a raconté quand même que 3% de tout ce que vous avez vécu, Mike Horn.
Bien raconté, mais ça donne envie, évidemment, de lire votre livre. Vouloir toucher les étoiles, c'est publié chez XO Éditions. C'était un grand bonheur. On est très fiers de vous avoir reçu dans le studio de la Curiosité. Merci mille fois d'être venu sur RTL.
Merci, Mike Horn. Vous les avez touchés, les étoiles?
Pas, j'essaye toujours.
Vous essayez toujours.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci.
Vous écoutez RTL.